Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis, entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël et je suis encore heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite, juste après Vibrasoes évidemment. Tous les samedis, vous êtes fidèles de cette émission pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et vous avez bien raison de vous tenir informés de l'actualité scientifique. Il n'y a pas que la Covid-19. On va parler de tout sauf de la Covid-19 dans cette émission, ça va nous faire un bien fou, vous allez voir. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier, on va un petit peu voir l'éphéméride de ce 23 janvier parce qu'il y a des dates comme ça qui marquent au niveau de l'actualité scientifique et c'est le cas aujourd'hui. Vous nous écoutez sur Graphite, vous écoutez Biotine sur Graphite plutôt dans ce sens-là, je dois le dire, sur Internet, bien sûr, graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé grâce au podcast. Si je commence à bafouiller, je pense que cette heure va être compliquée, mes enfants. Soyez indulgents. Vous nous écoutez sur la bande FM, bien sûr, le 94.9, et sur, vous pouvez suivre également la page Facebook, et avec le Facebook Live, vous nous suivez. Je vous salue, chers amis auditeurs, pour ceux qui suivent également cette émission grâce à Facebook. Ça peut être très sympa. 23 janvier, au niveau de l'éphéméride, nous sommes en 1896. William Röntgen fait part de sa découverte de rayons invisibles qui sont capables de traverser des corps opaques et d'imprimer une pellicule sensible. C'est la définition qu'il donne des fameux rayons X. C'est à la Société de physique médicale de Berlin. Röntgen, nous sommes en 1896, un 23 janvier. Le 23 janvier 1899, c'est l'acide acétylsalicylique qui est synthétisé par les laboratoires Bayer et qui est baptisé plus simplement aspirine. Heureusement, quand même plus facile de dire tu veux un cachet d'aspirine que tu veux un cachet d'acide acétylsalicylique. Ça me rappelle un vieux sketch des Inconnus, bien évidemment. En 1909, le naufrage en mer du paquebot RMS République ne fait que 5 victimes grâce à l'utilisation de la radio de bord qui permet d'alerter les gardes-côtes des États-Unis. Nous sommes en 1909. En 1922, début à Toronto, des injections d'insuline comme traitement pour les diabétiques. En 1933, il y a Jean Mermoz qui va rallier Buenos Aires en avion et il ouvre ainsi l'Amérique du Sud à l'aéropostale en 1933. Un petit peu plus proche, 1960, le bathyscaphe Trieste avec à son bord Jacques Piccard et Don Walsh atteint la profondeur record de 11 kilomètres. Je pense que là aussi, on ne se rend même pas compte, en fait. Nous sommes en 1960, hein, je le rappelle. Il est dans la fosse des Mariannes en Pacifique et voilà, il a atteint cette profondeur record. En 1970, la NASA place en orbite terrestre le satellite américain d'observation météorologique ITOS-1, en 70 déjà. Et enfin, en l'an 2000, le 23 janvier, des chercheurs japonais donnent naissance à la deuxième génération de vaches clonées. C'était il y a déjà quand même plus de 20 ans et nous en sommes à la deuxième génération. Je rappelle que la première date des années 95-96 de mémoire. En 2003, le dernier contact très faible qui provient de Pioneer 10 dû au manque d'énergie produite par ce générateur thermoélectrique à radioisotope qu'il utilise le plutonium comme combustible, une technologie quand même assez innovante en 2003 et l'année d'après 2004. La sonde européenne Mars Express apporte la preuve qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la planète Mars. Ça, on s'en souvient, c'était donc le 23 janvier 2004. Cette annonce avait quand même fait grand bruit à l'époque, de l'eau sous forme de glace qui est présente sur la planète Mars. On avait donc pour la première fois cette preuve. Naissance le 23 janvier 1840, oui c'est ça, de Ernst Abbe, qui est physicien et industriel allemand. Il va s'intéresser essentiellement à l'optique. Au milieu des années 1860, il est directeur de recherche de la société d'optique de Zeiss. Il met au point le condenseur pour améliorer la qualité de l'image. Il va perfectionner le microscope grâce à des travaux qui vont permettre justement d'améliorer les performances des microscopes. Nous sommes dans les années 1860-1870 et on doit cela grâce à ce physicien et industriel allemand Ernst Abbe, dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Et enfin, le décès le 23 janvier 1952 de Yakov Frenkel, qui est un physicien soviétique spécialiste de la physique de la matière condensée. Il y en a qui ont des hobbies comme ça assez particulières et lui s'est dit « moi je veux travailler sur la physique de la matière condensée ». Eh bien c'est très bien monsieur Yakov Frenkel, vous avez apporté énormément de choses dans ce domaine-là, vous êtes décédé le 23 janvier et il était important aujourd'hui d'honorer votre mémoire. Voilà pour l'éphéméride de jour. Assez complet finalement. Alors, il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où l'ONU s'est dit non. Le 23 janvier, on va faire autre chose. Donc, aucune journée internationale, c'est pas grave. On trouvera bien une bêtise à mettre l'année prochaine. On verra ça, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler un peu d'espace, parce que vous avez compris lors de la première émission du mois de janvier, il y a 15 jours, que l'espace sera l'actualité de cette année 2021. Donc Biotine, bien évidemment, va parcourir cette actualité spatiale. Et puis, on va parler des animaux et des insectes. Les abeilles qui ont une technique assez particulière pour se défendre contre des frelons géants, hein, on verra ça. Et les dauphins qui sont menacés par une maladie de peau qui est liée à l'environnement également. Et on se demandera pourquoi il y a autant d'espèces qui ont le sang de couleur rouge. C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi, et bien on verra ça dans cette émission. Mais avant, l'actualité de ce mois de janvier, c'est donc l'élection et l'intronisation du nouveau président américain Joe Biden. Mais question, quel va être son programme spatial à Joe Biden ? Parce que son prédécesseur Donald Trump a fixé des objectifs un peu audacieux en matière d'exploration spatiale pendant son mandat. Il y avait des missions habitées vers la Lune, des missions habitées vers Mars. Il y avait aussi ce qu'on appelait la Space Force. Par contre, on a un peu l'impression que son successeur Joe Biden, il a été relativement discret sur la politique spatiale. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'exploration spatiale est-elle susceptible de changer à l'avenir ? On peut se demander... Alors, il est clair qu'il y aura quand même des changements, bien évidemment, parce que le chef actuel de la NASA, Jim Bridenstine, a déjà annoncé son départ. Donc, du coup, ça va un petit peu changer à la NASA. Vers quoi, on n'en sait rien, mais automatiquement, quand il y a des nouvelles administrations qui se mettent en place, il y a parfois aussi des nouvelles politiques également qui vont suivre. Et on sait que la politique américaine en matière de vols spatiaux habités survit rarement à un changement à la présidence. Alors, cela dit, il y a quand même le succès de la mission de démonstration de SpaceX vers la Station Spatiale Internationale qui signifie que le programme d'équipage commerciaux va quand même normalement probablement se poursuivre, ce qui va aussi dans un sens soulager la NASA un petit peu de ce fardeau. Et de fait, le premier vol opérationnel du Crew Dragon de la société commerciale SpaceX est parti le 16 novembre dernier avec 4 astronautes à bord à destination de la Station Spatiale Internationale. Alors c'était dommage parce que avec le confinement, on n'avait pas pu réaliser une émission Biotine sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Autre chose, pendant l'administration Trump, la NASA s'est également engagée à ce que des astronautes retournent sur la Lune en 2024. C'est le fameux programme Artemis. Le premier lancement d'essais sans équipage est prévu dès l'année prochaine, avec le programme donc Artemis 1. Et ce programme s'appuie sur un autre programme qui s'appelait Constellation, ou Constellation peut-être en américain, qui était d'abord mis en œuvre par le président américain républicain George Bush Jr. C'était en 2005. Ensuite, ce programme avait été annulé par le président démocrate Barack Obama en raison à la fois de sa difficulté d'un point de vue technique, mais aussi en raison de son coût. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un basculement au niveau politique, il peut y avoir un basculement aussi au niveau des orientations et des programmes d'exploration spatiale. Le seul indice un peu intéressant sur l'orientation de la présidence Biden en ce qui concerne les vols d'astronautes vers la Lune se trouve dans un document du Parti démocrate qui est intitulé « Construire une économie plus forte et plus juste ». J'aime bien toujours ces grands titres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais en tout cas, il y a un paragraphe où justement le Parti démocrate déclare qu'il, je cite, « soutienne le travail de la NASA pour ramener les Américains sur la Lune et aller au-delà sur Mars, une nouvelle étape dans l'exploration de notre système solaire ». Donc c'est peut-être assez prometteur finalement si c'est marqué dans un document du programme du Parti démocrate. En général, ce qui est dit et ce qu'on promet en général dans les programmes électoraux, en général, ça se met en place, je suppose, ou je suis peut-être d'une naïveté confondante. En tout cas, il n'y a pas de détails véritablement sûrs quand le fait qu'on ne sait pas véritablement quand cela va arriver. Mais étant donné que la coopération internationale est désormais une caractéristique majeure du fameux programme Artemis, il serait quand même difficile pour une jeune administration qui se met en place de se retirer de façon unilatérale de ce projet. Par exemple, il y a le Canada, il y a l'Agence spatiale européenne, il y a le Japon qui sont tous des partenaires officiels dans la construction de cette station en orbite autour de la Lune. C'est un petit peu l'équivalent de la station spatiale internationale qui tourne autour de la Terre, on va en faire une qui va tourner autour de la Lune. Comme il y a déjà plusieurs pays qui sont engagés, on se dit que les Américains vont poursuivre ce programme avec les autres pays. Le programme fait également avancer les recherches rapidement, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction, l'alimentation électrique, la production alimentaire. L'Agence spatiale européenne a attribué un contrat il y a quelques jours, c'était au début de ce mois de janvier, un contrat à une société britannique pour développer des techniques qui vont permettre d'extraire simultanément de l'oxygène et des métaux sur le sol lunaire. Ça peut être intéressant. L'administration Trump a également fait pression pour une première mission vers Mars avec équipage dans la décennie 2030, une expédition bien plus délicate en raison bien sûr des distances à parcourir. Un tel voyage exposerait encore davantage les astronautes aux radiations et aussi, ne pas l'oublier, à des difficultés un peu psychologiques. Donc il y a d'autres défis importants qui vont être aussi pris en considération. Les restrictions de poids, les temps de communication limités également. Dans un rapport indépendant qui date de 2009, l'Institut de la politique scientifique et technologique américaine a déclaré qu'une mission habitée vers Mars, donc dans les décennies 2030, est actuellement impossible. Il est peu probable donc que le président Biden réitère cette proposition d'échéance dans un avenir proche. Autre chose, l'administration Trump avait créé ce qu'on appelait donc la Space Force au sein de l'Air Force, l'armée de l'air américaine. Cette initiative souligne le fait que les États-Unis considèrent l'espace comme une zone de guerre, bien évidemment, potentielle, plutôt que comme une espèce de zone d'exploration purement scientifique. Mais oui, parce qu'évidemment, on a quand même un aspect aussi géopolitique, même dans l'espace. Mais on se rend compte, il y a eu plusieurs études, plusieurs sondages qui ont été faits et qui montrent quand même qu'il y a beaucoup de citoyens américains qui ne sont pas complètement convaincus. Le programme bénéficie d'un taux d'approbation du public de 31% seulement. Faut dire que peut-être en ce moment, les Américains, comme d'autres, ont d'autres préoccupations, bien évidemment. Alors, la question, c'est est-ce que cette Space Force va survivre avec l'arrivée de Joe Biden, à la présidence? Le démantèlement d'une branche des forces armées n'a jamais été effectué aux États-Unis auparavant. Et la réintégration de cette branche dans l'armée de l'air américaine pose sans aucun doute de nombreuses difficultés. Il est donc probable qu'elle restera peut-être avec une attention réduite. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau? Eh bien, Joe Biden s'est déjà engagé à signer des décrets qui annuleront la plupart des travaux de l'administration Trump. Bon, la même chose, hein, Trump avait aussi annulé ce qui avait été mis en place par Obama et ainsi de suite. Hein. C'est un petit peu la règle, évidemment. Mais le plus grand signe de ce changement, c'est le départ, je vous le disais, donc de ce fameux chef de la NASA, Jim Bridenstine, lorsqu'il a été nommé il y a 3 ans. Il ne reste pas longtemps à la tête de la NASA. Ce fut une surprise pour la communauté scientifique parce qu'il n'a pas de qualification scientifique. Et ce qui est quand même assez génial, il avait exprimé à l'époque, on avait parlé aussi dans cette émission, des doutes. Il avait exprimé des doutes sur le changement climatique. Bon, après, il avait un peu changé d'avis parce qu'il s'était dit « Oh là là, si je vais être chef de la NASA, il faut peut-être que je revienne sur ce que j'ai dit auparavant. » Donc, il avait un petit peu changé d'avis. Et puis, on a dit « Oh, mais il est sûrement bien ce mec-là, on va le mettre à la tête de la NASA. » Bref, son départ est aussi un peu significatif de la fin du mandat de Trump. Mais on considère quand même avec du recul que d'un point de vue management de la NASA, il était quand même assez compétent et assez intéressant pour gérer cette administration un peu complexe, bien évidemment. Il a déclaré qu'il voulait laisser la place à quelqu'un ayant une relation étroite avec le président nouvellement élu. La question de savoir qui cela, eh bien, ça pourrait être toujours d'actualité et ça va un petit peu dépendre, bien sûr, en grande partie du nouveau président Joe Biden. La plupart des dirigeants de la NASA ont au moins un diplôme en ingénierie en physique. Ça me semble la moindre des choses, évidemment. Et dans le passé, quand même, la plupart des dirigeants de la NASA ont dirigé un centre spatial. Alors, il y a une liste de candidats potentiels que je vais vous épargner, mais vous pensez bien que ça commence déjà à ruer dans les brancards pour essayer d'être le premier sur la ligne d'arrivée pour avoir cette place prestigieuse de dirigeant de la NASA. Joe Biden a clairement dit que l'urgence climatique était une priorité. Alors, il est probable que la lutte se concentre sur la limitation de la pollution industrielle et le développement de sources d'énergie renouvelable. Mais cela suggère peut-être aussi une politique spatiale davantage axée sur les missions d'observation de la Terre, comme par exemple des programmes de satellites géostationnaires pour l'environnement. Il y a d'autres satellites aussi qui pourraient surveiller les marées noires, la déforestation, les émissions de carbone. Tout ça pourrait être aussi envisageable au niveau de l'exploration spatiale, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans l'espace des éléments pour mieux comprendre la Terre. Mais à la rigueur, pourquoi pas, si ça peut permettre d'avoir des informations assez intéressantes. Bref, tout ça est assez prometteur et intéressant. La problématique, évidemment, et vous le savez, c'est que toutes ces possibilités sont un peu éclipsées par la crise financière provoquée par la Covid-19 et les projets à long terme, comme le programme Artemis, ont besoin d'un financement régulier, stable, fiable et assez conséquent. Et du coup, c'est assez difficile dans une transition de gouvernance et dans une période un peu difficile d'un point de vue économique de pouvoir se projeter, de définir une politique spatiale sur le long terme. Et donc, les échéances qu'on avait un petit peu identifiées il y a quelque temps pour l'exploration spatiale, ce sont des échéances qui vont peut-être un petit peu glisser dans le temps, bien évidemment. Mais pour finir, en général, et c'est ce que l'on lit sur différents canaux, il y a quand même de nombreux scientifiques américains qui pousse un peu un soupir de soulagement parce que beaucoup estimaient qu'ils luttaient quand même et perdaient énormément d'énergie à lutter contre les tweets un peu anti-science de Trump et que du coup, là, ça va pouvoir peut-être finalement aller vers l'essentiel. Bref, le programme spatial de Joe Biden, on l'attend et on suivra bien sûr cela de près. C'est toujours une impulsion que le président américain, quel qu'il soit, peut donner à l'exploration spatiale. On suivra ça, évidemment, dans cette émission, dans les prochaines semaines, quand on en saura un petit peu plus sur ce programme. On va parler toujours d'exploration spatiale, mais cette fois de l'autre côté de la Terre, c'est-à-dire au niveau de la Chine, avec les objectifs cachés de la mission qui concerne le retour des échantillon lunaire, juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. I've been waiting. Love Me Again de Céric sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison parce que je vous emmène sur la Lune. J'en ai assez de la Terre, j'ai envie de partir, j'ai envie de vous emmener. Et si on faisait une émission bientôt en direct de la Lune? On est capable maintenant d'avoir du Facebook Live, on est capable de faire des choses formidables avec Graphite. Je vais militer et j'ai besoin de vous, chers amis auditeurs, pour dire mais oui, il faut à tout prix que Graphite soit la première radio qui puisse faire une émission en direct de la Lune. Après tout, pourquoi pas? Et on pourrait peut-être pour cela être aidé par les Chinois et la fameuse sonde chinoise Change 5 maintenant, qui se pose à proximité du mont Runker dans l'océan des tempêtes. Alors, j'ai pas la carte de la Lune sous les yeux. Je ne sais pas si mon GPS va pouvoir me dire où se trouve l'océan des tempêtes sur la Lune. L'océan des tempêtes, c'est quand même pas de bon augure. Hein. C'est sûrement pas le coin le plus génial pour passer ses vacances. En tout cas, c'est la plus grande des mers lunaires où il y a de nombreux engins soviétiques américains qui se sont posés. Et également la mission Apollo 12, nous sommes en novembre 1969. Bref, on se dit que l'intérêt scientifique est un peu évident et les Chinois se sont dit, bah, tout le monde est allé, on va y aller également. C'est comme Saint-Tropez, quoi. Il y en a au départ, ils y sont allés, après tout le monde veut y aller. Et bien là, maintenant, tout le monde veut aller à l'océan des tempêtes sur la Lune. Les scientifiques qui estiment que l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a à peu près, hein, grosso modo, 3 milliards 800 millions d'années, hein, la louche, hein, voilà. Ces scientifiques sont convaincus que dans cette région, elle aurait perduré bien plus longtemps jusqu'à tout récemment. Alors, je rappelle, quand on parle de durée d'échelle de temps avec des astrophysiciens, on n'est pas dans la seconde. Là, on est environ à l'arrêt de cette activité volcanique il y a à peu près une centaine de millions d'années, évidemment. Cette région de la Lune aurait donc vécu des phénomènes volcaniques beaucoup plus tardif par rapport au reste donc de cette Lune, d'où l'utilité de ramasser des échantillons de cette zone, notamment dans son sous-sol. Et l'analyse de ce sous-sol devrait apporter des informations importantes sur la structure interne de la Lune et bien sûr donner des informations sur son histoire. Mais le site d'atterrissage, ou plutôt d'alunissage, de la mission chinoise a comme autre particularité d'abriter une concentration particulièrement élevée de terres rares. Ah, c'est génial ça. Comme il n'y en a pas assez sur Terre, on va aller chercher les composants pour faire nos smartphones sur la Lune. Non, je plaisante, on n'en est pas encore à ce point-là. Quoique, le fait qu'il y ait une concentration assez élevée de ces fameux terres rares fait que l'on peut voir, on peut se dire que justement, on permettrait d'avoir des informations aussi assez intéressantes sur ce qu'on pourrait exploiter sur le sol lunaire. Évidemment, ça va être ça. Et le fait de pouvoir ramener sur Terre des échantillons de la Lune, eh bien, c'est ce que s'apprête à faire cette mission chinoise Change 5. Cela va permettre d'estimer les quantités probables de terres rares présentes sur cette zone. Alors, cette appellation de terre rare recouvre les éléments situés entre, au niveau de la classification périodique des éléments. Rappelez-vous, 2019, on a passé toute l'année à remplir le tableau de Mendeleïev avec biotine. Donc, ces éléments chimiques, il y en a qui sont en grande quantité, bien évidemment, et il y en a qui sont beaucoup plus rares, justement. Et certains, le scandium, le lithium, peut avoir des propriétés électroniques, magnétiques, optiques, vraiment intéressants. Et ils sont aujourd'hui devenus incontournables dans de nombreux secteurs, l'automobile, l'aéronautique, la défense et le développement des nouvelles technologies. Et donc, les gisements connus, exploitables sur Terre, sont plutôt limités et on estime ça à peu près à 150 millions de tonnes seulement. Et donc, à ces éléments s'ajoute également l'hélium-3 dont l'exploitation permettrait de produire une énergie nucléaire beaucoup plus propre qui serait issue de la fusion. Et donc, selon le scientifique chinois Wu Yang-Zian, la Lune est tellement riche en hélium-3 que cela pourrait régler le problème des besoins en énergie de l'humanité pour au moins 10 000 ans. Tu m'étonnes que du coup on regarde la Lune d'une autre façon maintenant. Certains scientifiques quand même doutent de son intérêt dans un avenir proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de ce programme d'exploration de la Lune, la Chine, qui détient le quasi-monopole de la production de terres rares, à peu près 85% de la production de terres rares sur Terre, est détenue par les Chinois. Eh bien, la Chine a clairement fait de ses gisements une priorité et elle se positionne dans l'exploitation des ressources présentes sur la Lune. Et donc, les premières sondes chinoises qui avaient été envoyées avaient notamment servi à recenser sur la Lune les régions qui étaient susceptibles d'abriter ces fameux terres rares en quantité et notamment localiser les dépôts à forte concentration. Et la mission 4, qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, on s'en souvient, c'était il y a 2 ans maintenant, janvier 2019, eh bien l'un de ses principaux objectifs, c'était de déterminer la quantité exacte d'hélium-3 présent sur la Lune et puis aussi de savoir où est-ce qu'on pouvait le trouver. Et donc, l'idée, c'est que la Lune, elle est au cœur des ambitions scientifiques et économiques de la Chine, dont la vision à long terme est quand même assez intéressante d'un point de vue purement scientifique et technologique. Aux conditions économiques d'aujourd'hui, le fait de rapporter ces terres rares sur Terre, justement, n'est pas nécessairement intéressant, parce qu'on ne maîtrise pas encore totalement les voyages vers la Lune. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur quelque chose qui est assez fréquent. Il n'empêche, il y a un réel intérêt à exploiter, justement, le sous-sol lunaire pour essayer de pérenniser l'installation de l'homme sur la Lune et bien sûr de préparer les futurs voyages à destination de Mars et voire au-delà. Je vous rappelle que l'une des idées, c'est de pouvoir, avant de partir sur Mars, faire une petite halte sur la Lune. Tu as une correspondance en fait sur la Lune maintenant pour aller sur Mars. Ça vous change de Châtelet à Paris en fait. C'est une situation qui doit faire prendre conscience à nos décideurs de l'importance de la Lune pour notre avenir et notre indépendance. Les Chinois, eux, bien sûr, ont déjà compris tout l'intérêt de tout ça. Voilà. On revient un petit peu sur Terre et on va parler un petit peu des animaux et des insectes et notamment ici des abeilles. Parce que c'est pas simple d'être une abeille. Genre Maya l'abeille, c'est sympa, ça a l'air d'être rigolo d'être une abeille. On avait tous envie d'être une abeille quand on regardait Maya l'abeille. Sauf que la vie d'une abeille n'est pas de tout repos, elle bosse quand même déjà. Hein. Et la récolte du nectar des fleurs, eh bien une colonie, elle doit aussi se protéger des attaques d'autres insectes, et notamment les frelons. Pour se défendre, les abeilles, elles ont mis au point plusieurs techniques. Celle de l'étouffement, elles sont fortes ces abeilles, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'abeilles qui va recouvrer un frelon et en fait elles vont bouger autour de lui, ça va le chauffer, le surchauffer, il va mourir en fait, étouffer, il va suffoquer et cette technique, elle est quand même assez impressionnante. Mais les frelons, bon, ils sont quand même pas non plus nigauds, ils ont aussi des techniques d'attaque assez sophistiquées. Avec leurs puissantes mandibules, ils vont mâchouiller l'entrée des ruches pour espérer rentrer à l'intérieur, où ils vont laisser un marqueur chimique à l'entrée de la ruche. Et donc, c'est une espèce de repère qui va jouer un rôle de signal pour une potentielle attaque en masse qui va être organisée par plusieurs ouvrières avec l'idée de pouvoir décimer carrément une colonie entière. Donc, les deux vont essayer de développer et améliorer des techniques d'attaque ou de défense au fil du temps. Les abeilles les plus exposées aux attaques de frelons, elles ont mis en place une technique qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais été documentée. Et là, on se dit, oh, les abeilles, elles sont quand même assez malines. Elles ont dû trouver quelque chose de génial pour se protéger. Et cet article qui est paru dans, je ne retrouve pas le titre, je vais le voir tout à l'heure, mais en tout cas, dans la revue Plus One, pardon, montre justement que cette technique n'est pas aussi glorieuse qu'on l'aurait souhaité, mais elle semble être efficace. Les ouvrières, elles partent à la recherche d'excréments d'animaux et elles vont disposer ça à l'entrée de leur nid pour éloigner les frelons. Et ce comportement est la première description de la collecte de matériel non végétal et de l'utilisation d'un outil chez les abeilles. Ça a été particulièrement observé chez une espèce d'abeille asiatique, précisément au Vietnam. Les expériences qui ont été menées au Vietnam montrent justement le fait qu'il y a plusieurs apiculteurs qui ont expliqué qu'ils ont constater la présence d'excréments à l'entrée de leur ruche. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et il y a plusieurs colonies de cette abeille vietnamienne qui ont été suivies pendant 10 jours et les entomologistes, donc les scientifiques qui vont étudier les insectes, ont alors observé les abeilles rapporter à la ruche des petites boules d'excréments qu'elles tenaient dans leur mandibule après avoir eu la visite d'un frelon asiatique. Dès que le frelon est venu, elles se sont dit « Oh là là, il va y avoir une attaque, on va aller se calfeutrer et mettre donc des excréments à l'entrée de notre porte. » Plusieurs jours après l'attaque des frelons, les abeilles continuent à disposer des excréments devant l'entrée de leur nid. Les scientifiques ont trouvé plusieurs explications à ce comportement qui, pour l'instant, était encore inédit. Ils pensent que les excréments protègent l'entrée du nid des mandibules des frelons parce que ils vont perdre du temps, les frelons, à mâchouiller l'entrée du nid quand ils se posent. Comme c'est un peu plus dur, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés pour rentrer à l'intérieur. Deuxième explication, c'est bien sûr l'odeur. Ça, on y pense bien évidemment, qui pourrait couvrir les marqueurs chimiques qui sont laissés par les frelons. Et les frelons, les marqueurs chimiques de ces frelons, ça indique un peu la position de la ruche pour une éventuelle attaque en masse. Donc du coup, si vous calfeutrez un peu par une odeur plus forte ces marqueurs chimiques, les frelons ne vont plus retrouver quelque part l'entrée de la ruche. Et du coup, on considère que ce sont un petit peu ces deux raisons pour lesquelles ces abeilles ont mis en place cette technique. Alors, c'est au Vietnam que ça se passe. En Europe, eh bien, on se rend compte que cette stratégie de défense n'est pas mise en place par les abeilles. Et elles sont d'ailleurs un petit peu vulnérables, voire significativement vulnérables, face aux espèces de frelons asiatiques invasifs qui sont en train justement de prospérer en Europe. Et du coup, on se dit que peut-être cette technique développée en Asie va pouvoir venir à l'oreille des abeilles européennes et peut-être développer cette étude-là. Donc les abeilles utilisent des excréments pour se défendre contre les frelons géants. C'est le titre de Futura Science qui m'a attiré l'œil parce qu'effectivement, derrière, on découvre finalement que la nature, quelle qu'elle soit, trouve toujours des parades à tout. Et c'est toujours dans ce genre d'article que j'oublie toujours que nous sommes entre 12h et 13h et que vous êtes peut-être en train de déjeuner. Je vous souhaite donc évidemment à tous un bon appétit, bien sûr. Mais voyez, ce genre d'information, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est la rubrique savoir étaler sa science. Il y a un moment où, dans une conversation, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et bien là, vous pouvez dire à vos amis, à votre chef de service, mais sais-tu comment se protègent les abeilles ? Et vous expliquez tout ce que je viens de vous dire et vous allez finir ensuite par des éloges en vous disant, mais comment tu as pu apprendre cela ? Mais très simple, j'écoute Biotine tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Dernière chose avant d'écouter un autre titre sur l'antenne, on va parler des dauphins. Il y a une autre étude, c'est moins drôle cette fois, en novembre 2007, il y a déjà quelques temps, il y a 3 dauphins d'une espèce particulière qui se sont échoués sur une berge de l'état de Victoria. Nous sommes en Australie. Les animaux dont on dénombre qu'une centaine d'individus au total sont dans un état inquiétant et 2 ans plus tard, nous sommes en 2009, il y en a 3 autres des grands dauphins de l'océan Indien, cette fois-ci, qui vont s'échouer dans l'état d'Australie occidentale. Ils sont dans le même état que les premiers dauphins qu'on avait eus. Leur corps, en fait, est recouvert presque en totalité de lésions au niveau de la peau, des lésions assez profondes, assez ulcérantes, qui sont à l'origine de la mort, justement, de ces dauphins. Et plus de 10 ans après, eh bien, les scientifiques australiens ont travaillé avec des scientifiques américains et qui sont parvenus à trouver la cause de cette maladie de peau qui était jusqu'alors inconnue et elle est due à un changement brutal des eaux côtières qui sont fréquentées par ces deux espèces de dauphins. L'autopsie des animaux a permis de révéler l'ampleur des lésions qui parsèment le corps des dauphins. Elles sont de plusieurs sortes et c'est notamment des décolorations un peu anormales qui se mettent en place et d'autres également. Alors ça va du jaune jusqu'au gris, donc ça va être des couleurs assez particulières et ils sont quand même assez esquintés. Comme vous êtes à table, je vais quand même pas aller dans le détail de ce que sont obligés de supporter ces dauphins, mais en tout cas il y a vraiment une maladie qui n'est pas due à un pathogène mais qui est due à un changement soudain mais durable de la salinité, donc du caractère salin, de la quantité de sel en fait qu'il y a dans l'eau. Les scientifiques ont relevé que la quantité de sel dans l'eau était anormalement basse, et ce qui fait que les dauphins ont évolué pendant des mois dans cette eau qui avait moins de sel que d'habitude. Et du coup, la couche supérieure de la peau des dauphins a subi une espèce de stress osmotique qui a provoqué justement cette maladie et qui ensuite a provoqué leur mort et qui font apparaître donc toutes sortes de lésions cutanées. Il a fallu 10 ans pour comprendre et 10 ans pour se dire que finalement, c'était bien dû, là encore, à l'environnement. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, toutes les semaines dans cette émission, on parle des catastrophes qui émanent de ce réchauffement climatique. Là, c'est une autre conséquence encore de ce dérèglement qui fait que voilà, ces dauphins, qui sont une espèce menacée parce qu'ils ne sont pas nombreux, ont justement des grandes difficultés à s'adapter à ce changement brutal de leur écosystème. Voilà, bon, bah, j'ai bien plombé l'ambiance, c'est sympa, on va écouter un titre et puis on se retrouve juste après à continuer de feuilleter le grand livre de la science et de la technologie. Vous écoutez Biotine et plus précisément maintenant Parlor Snakes. Parlons Snacks sur l'antenne de Graphite avec Serpent. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir de l'actualité scientifique. Alors j'étais en train de chercher, comme on parlait un petit peu des océans, j'ai retrouvé cet article qui date du mois d'octobre dernier et qui parle donc toujours du réchauffement climatique, c'est ce que je vous disais, qui explique bien sûr que notre atmosphère devient de plus en plus instable. Et cet article parle essentiellement des océans, où c'est le phénomène un peu inverse ce qui se passe, c'est-à-dire que nos océans deviennent plus stables encore que ne l'avaient initialement pensé les scientifiques. C'est ce qu'expliquent des chercheurs de l'université de Penn State aux États-Unis. Et malheureusement, on pourrait se dire que des océans plus stables pourraient être une bonne nouvelle, ça n'en est pas nécessairement une. Rappelons que dans les océans, les masses d'eau sont disposées en couches, en strates de température et de densité différentes. Et lorsque l'océan est stable, ces couches ne se mélangent plus. Et donc l'eau fraîche et oxygénée du fond ne remonte plus et donc n'apporte plus ni oxygène ni nutriments aux eaux de surface. Et donc ces eaux de surface, de leur côté, ne peuvent plus absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le faire couler dans les profondeurs. Et donc, à l'origine de ça, c'est le réchauffement des eaux de surface, et la fonte des glaciers. Température de surface et salinité de profondeur, donc le caractère de salin, le sel présent en profondeur, parce que les glaciers apportent bien sûr de l'eau douce en plus à la surface, tout ça entraîne une plus grande stratification des océans. Et donc, du coup, la capacité des océans à atténuer le réchauffement climatique, elle est rendue plus difficile lorsqu'il y a moins de mélange. C'est ce qu'explique Michael Mann, chercheur en sciences de l'atmosphère, dans un communiqué. Moins de mélange descendant des eaux qui se réchauffent signifie que la surface de l'océan se réchauffe encore plus rapidement, qui conduit par exemple à des ouragans plus puissants. Et donc les modèles climatiques mondiaux sous-estiment ces tendances, et c'est très important. Donc c'est là encore une illustration de l'effet du réchauffement climatique qui fait que les océans sont moins agités et que justement ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est un article qui date d'octobre et je trouvais intéressant en corrélation, avec ce que l'on venait de voir avec les dauphins. Écoutez, je vous propose d'écouter un dernier titre et on terminera par deux dernières petites informations pour finir cette émission. A tout de suite, on écoute cette fois Squid sur l'antenne de Graphite.
Even now.
Squid avec The Cleaner sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine. Nous sommes donc aujourd'hui le 23 janvier et nous avons fait un petit peu le point sur l'actualité scientifique dans l'espace, sur Terre, en parlant des animaux. On va terminer encore avec cette information un peu anxiogène, j'en suis désolé, mais bon, il y a quand même des alertes un petit peu partout et notamment au niveau de l'arsenic. L'arsenic qui est un élément aussi dangereux qu'omniprésent dans notre environnement. Il contamine les nappes phréatiques, les sols industriels, les sols agricoles, la nourriture que nous consommons. Sa présence a été constatée de façon systématique dans notre organisme, à des doses plus ou moins élevées. Et alors qu'une part importante des études passées se sont concentrées essentiellement sur la pollution des eaux souterraines par l'arsenic, eh bien une toute nouvelle étude intéressante et qui a été présentée il y a quelques semaines et qui se penche sur la présence de l'arsenic dans l'air. Et ils ont récupéré des différentes technologies permettant de pouvoir analyser tout cela. Et les chercheurs ont pu obtenir une modélisation assez fiable de sa distribution à l'échelle mondiale. Alors, l'Union européenne préconise une concentration spécifique du taux d'arsenic dans l'air. L'OMS, Organisation mondiale de la santé également. Bref, il y a des limites qui sont imposées. Et en fait, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre, avec des concentrations notablement élevées notamment dans les nouveaux pays industrialisés. La pollution à l'arsenic de l'eau a longtemps été un problème et a fait l'objet de nombreuses études, mais l'impact sur la santé de l'arsenic atmosphérique a été relativement ignoré. C'est ce que notent les chercheurs dans leur étude qui est parue dans la revue PNAS. Et donc, pour pallier ce manque, ils ont donc choisi de créer un modèle atmosphérique capable de produire une carte fiable de la répartition de l'arsenic dans l'air à partir donc d'un inventaire des différentes sources d'émissions. Et en fait, on explique dans cet article qu'on avait déjà vu pour l'année 2005 des concentrations d'arsenic dans l'air qui étaient les plus élevées au-dessus du Chili et au niveau de la Chine de l'Est, avec des valeurs qui étaient quand même assez significatives, et même aussi en Inde, du fait du développement rapide de la combustion du charbon en Inde. C'est ce qu'écrivent les chercheurs. Le Chili restait en tête avec des émissions bien supérieures à la limite autorisée qui provenaient en grande partie de la fusion du cuivre dont le pays est le premier producteur mondial. Et donc du coup, on a fait des études et on s'est bien rendu compte, on s'en doutait un petit peu, mais on s'est rendu compte justement de la forte présence d'arsenic dans l'air. L'arsenic, c'est un perturbateur endocrinien. Il entraîne des maladies cardiovasculaires. Il interfère, entre autres choses, avec la différenciation cellulaire. Bref, ça le rend aussi cancérigène. En 2005, la population chinoise était la plus affectée par les risques de cancer liés à la pollution à l'arsenic, avant d'être doublée en 2015 par l'Inde. Et la population affectée par l'arsenic a augmenté en 2015. On considère à peu près de 4 milliards de personnes concernées par cette pollution à l'arsenic. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était essentiellement en Chine, en Inde, Bangladesh, Égypte, Argentine, Chili, Mexique. Nous observons, expliquent les chercheurs, que les effets combinés de l'arsenic dans l'atmosphère et en plus donc les nappes phréatiques qui pourraient significativement augmenter les risques pour la santé. Bien sûr, il y a de l'arsenic dans l'eau, il y a l'arsenic dans l'air, tu cumules les deux, c'est pas génial. Cette étude suggère donc clairement la nécessité de prendre en compte l'arsenic atmosphérique et l'arsenic dans l'eau conjointement dans le développement de solutions alternatives futures, bien évidemment. Mais voilà, on n'a jamais parlé, il me semble, dans cette émission d'arsenic comme polluant, et cette étude nouvelle confirme donc ce que on avait un petit peu supposé, à savoir la présence d'arsenic dans l'air. On va se quitter avec cette dernière question. C'est la question de la fin de l'émission. Question, pourquoi il y a autant d'espèces animales qui ont le sang rouge ? La question peut se poser. Alors, la couleur rouge du sang, elle provient bien sûr de l'hémoglobine, un pigment qui est présent dans les systèmes vasculaires de nombreuses espèces. les vertébrés, quelques espèces d'arthropodes, des mollusques, des annélides, vont produire cette hémoglobine. Et ce trait commun peut avoir deux origines. Il peut s'agir de l'héritage d'un ancêtre commun, et ça pourrait être intéressant du coup d'avoir un ancêtre commun à la fois aux vertébrés, aux mollusques et ainsi de suite, ou alors à une apparition un peu indépendante qui pourrait avoir eu lieu à plusieurs reprises. Les yeux, par exemple, se sont développés chez différentes espèces de façon indépendante au cours de l'évolution, c'est-à-dire que chez des espèces distinctes, il y a une mutation qui a entraîné la création de ce qui ressemblait plus ou moins à des yeux, et ça s'est avéré quand même assez pratique pour pouvoir perdurer et pouvoir survivre. Et donc, dans le cas de l'hémoglobine, on se demande si ce n'est pas la même chose. Il y a une étude qui a été qui est parue il y a pas si longtemps, et l'article de Futura date du début du mois de janvier. Cette étude qui penche plutôt pour l'héritage d'un ancêtre commun. Les chercheurs ont analysé en fait le génome d'un annélide marin dans le matériel, espèce de ver en fait, dans le matériel génétique évolue lentement. Et ça, c'est intéressant pour les scientifiques parce que on se dit que du coup, comme ce matériel génétique évolue lentement, on peut remonter très loin dans le temps en fait. Et on peut se dire que les caractéristiques de cet animal, de ce vers marins sont proches de celles du dernier ancêtre commun de la plupart des animaux qui s'appelle Urbilateria, et justement ça permettrait en analysant encore plus l'aspect génétique de ces animaux de savoir si on pourrait pas trouver des similarités justement au niveau de ces différentes espèces. Et on se rend compte que l'analyse de ce vers marin a révélé que 5 gènes de protéines dont certaines composent l'hémoglobine étaient présents chez cet ancêtre commun, et donc du coup on se dit que ça pourrait être l'une des explications qui montrent qu'une grande partie des espèces animales sur Terre ont en commun le fait d'avoir un sang rouge dû à cet ancêtre commun. C'est une supposition, mais en tout cas, voilà, il y a une concordance de faits qui fait que ça peut expliquer pourquoi autant d'espèces ont du sang rouge. Vous voyez, on descend. En fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'on descend tous d'un ver marin, en fait. C'est ça, la conclusion. Et c'est pas glorieux, peut-être. Allez savoir. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique et technologique et médicale. Et on continuera, bien sûr, à suivre l'actualité qui se passe dans l'espace. Je rappelle que 2021, ça va être l'année de l'espace. Il y a tellement de rendez-vous qui nous attendent. Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur graphite.net, sur la page Facebook, bien évidemment. Et nous incitons, et bien sûr, à liker cette page Facebook et à diffuser l'information auprès de vos proches. Et bien sûr, sur la bande FM 94.9. Merci à tous de votre attention. Bonne fin de journée. Tout de suite, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. À bientôt.